Bonjour à toutes et à tous. Au cours de la semaine passée, nous étions nombreux, je pense, à bénéficier de plusieurs jours fériés. Le mardi 8 mai, nous avons commémoré une fête civile, celle de la victoire des Alliés qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Et le jeudi 10 mai, nous avons fêté l'ascension de notre Seigneur Jésus. L'ascension, le fait que Jésus soit monté au ciel, est donc une fête religieuse, une fête chrétienne qui puise ses racines dans la Bible. Cet événement, l'ascension, la montée de Jésus au ciel, le Christ lui-même l'avait prédit lorsqu'il avait déclaré à ses disciples en disant cela, « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé ». Cet événement si prodigieux et si important n'est raconté que très brièvement dans la Bible. Pour autant, l'ascension n'est pas seulement un grand fait historique, un fait important du Nouveau Testament, c'est aussi un facteur primordial de la vie de Jésus-Christ et de la vie des chrétiens. Puisque, en quelque sorte, l'ascension, c'est le couronnement, c'est l'achèvement de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Et ce matin, je vous invite à cheminer ensemble à la lumière de deux courtes lectures. Donc, la première lecture se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 1. Nous lirons du verset 9 au verset 11. Et pour la seconde lecture, nous allons simplement tourner la page au chapitre 2. Et cette prédication sous forme de cheminement, on pourrait donner comme titre les bienfaits de l'ascension de Jésus pour nous. Après sa résurrection, Jésus est resté sur la terre pendant 40 jours. Et avant de partir au ciel, il a emmené ses disciples hors de Jérusalem à Béthanie, et là, il leur a communiqué un dernier message pour les motiver à continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Jésus, en effet, a promis aux disciples de leur envoyer une puissance, à savoir le Saint-Esprit. Et après avoir fait cette promesse, élevant la main au ciel, il les bénit. Il bénit les disciples. Et nous allons lire Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus, tous de blanc, leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On arrête là pour notre première lecture. Donc, quelques jours après, les disciples, effectivement, ont reçu cette promesse. Ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et Pierre, justement, lors de la Pentecôte, animé par l'Esprit Saint, va annoncer l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui étaient présents à Jérusalem. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute de ce que Pierre va dire. Actes, chapitre 2, versets 32 à 35. Donc c'est Pierre qui parle. « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Amen. Au premier chapitre que nous avons lu, Luc, qui est l'auteur de ce texte, nous rapporte l'ascension de Jésus. Et il le fait d'une manière assez particulière. En effet, au premier verset que nous avons lu, il est précisé que « il », donc à savoir Jésus, « fut élevé ». Luc, en quelque sorte, martèle que c'est Dieu qui manifeste sa puissance par la nuée en élevant son fils Jésus dans la gloire au ciel. Jésus, donc, dans son corps glorieux, dans son corps ressuscité, a quitté ce monde terrestre pour rejoindre son Père dans le royaume céleste. Les disciples, stupéfaits, choqués, avaient les regards fixés au ciel pendant que Jésus s'en allait. Bien sûr, ils étaient attristés d'être séparés de ce maître qu'ils aimaient tant. Et pendant qu'ils regardaient au ciel, deux messagers, deux anges, tous de blancs vêtus, viennent leur délivrer un message. « Consolez-vous, disent les anges. Vous ne serez pas toujours séparés de votre Sauveur, mais il reviendra. Ce même Jésus que vous avez vu, que vous contemplez, viendra ainsi de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, ces anges, ces deux personnes vêtues de blanc, viennent ici confirmer la véracité de la promesse du retour de Jésus. C'est une promesse que Jésus avait déjà faite avant, et ici nous avons des anges qui viennent confirmer cette véracité. Et notre deuxième lecture présente Pierre en train de prêcher. Il proclame la résurrection de notre Seigneur. Pierre annonce effectivement que les disciples, ceux qui étaient présents à Jérusalem, les chrétiens, ont reçu l'Esprit Saint que Jésus avait promis avant son départ. Et justement, témoin de cette résurrection et de l'ascension, Pierre proclame que Jésus est élevé à la droite de Dieu. Je voudrais m'arrêter maintenant sur trois aspects particuliers de ce texte, de ces deux textes, pour en tirer de concrètes applications et implications pour notre vie chrétienne. Le premier aspect, c'est au chapitre 1, verset 11. Donc, Jésus est élevé au ciel. Le deuxième aspect, c'est au chapitre 2, verset 34. Donc, c'est sa présence, la présence de Jésus et son action par l'Esprit Saint. Et enfin, la session, donc au verset 34, donc le fait que Dieu soit monté là-haut, sa session à la droite de Dieu au ciel. Et bien sûr, le but de ce cheminement est de rappeler les bienfaits de l'ascension pour nous. Jésus est élevé au ciel. Jésus est reparti au ciel. Le premier récit lu décrit un événement clair et précis. Effectivement, il est écrit que Jésus s'est rendu dans un lieu précis. Et il n'a pas disparu subitement, mais il est monté progressivement dans un lieu alors que les disciples le regardaient. Et l'Écriture nous rapporte, c'est jusqu'à ce qu'un nuage, sans doute un symbole de la gloire de Dieu, le dérobe, le cache à leurs yeux. Christ, notre Seigneur, est donc monté au-dessus de tous les cieux afin de tout remplir. Et le ciel, là où Christ est, ne se limite pas à ce que nous percevons depuis la terre. Le ciel, dit Jean Calvin, le réformateur, c'est le magnifique palais de Dieu supérieur à tout bâtiment du monde. En montant au ciel, Jésus quitte cette terre. L'ascension de Jésus vise à nous enseigner que le ciel existe vraiment en tant que lieu. En effet, Dieu, dans sa parole, nous dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Mon trône, c'est le ciel. » Et Jésus lui-même nous enseigne à prier que « Notre Père qui est aux cieux. » Donc, Dieu est présent partout, mais manifeste sa puissance, sa gloire, d'une manière toute particulière au ciel, où il fait connaître sa gloire, et où les anges et les saints rachetés lui rendent un culte. Ailleurs, Jésus nous a fait cette promesse, « Je vais vous préparer une place. » Bien sûr, lorsqu'il s'adressait aux disciples, il parlait de quitter l'existence terrestre pour aller auprès du Père. Nous, aujourd'hui, lorsque nous pensons au Christ maintenant dans le ciel, cela nous pousse-t-il à prêter davantage attention aux choses qui ont une portée éternelle? Cela accroît-il notre assurance que nous serons un jour, nous aussi, avec lui dans le ciel? Mes frères et sœurs, l'ascension de Jésus est et doit être pour nous une source intarissable, une source inépuisable de réconfort, de joie et d'espérance. En effet, elle a de profondes implications pour notre vie quotidienne. La première implication que nous pourrions tirer, puisque nous sommes unis, puisque nous sommes associés au Christ, dans chaque aspect de son œuvre rédemptrice, l'ascension de Jésus-Christ annonce notre future ascension au ciel. Ailleurs, nous lisons effectivement que nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans la nuit pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite aussi à courir, à achever la course qui nous est proposée, sachant que Jésus nous a ouvert la voie et que nous finirons par recevoir les bénédictions qu'il nous a acquises. En effet, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi qui la porte à la perfection. Et justement, c'est parce que Jésus savait la joie qui lui était réservée qu'il a enduré la mort sur la croix, en méprisant aussi la honte qui était attachée à un tel supplice. Et désormais, notre Seigneur siège à la droite de Dieu. Deuxièmement, la deuxième implication, c'est que l'ascension de Jésus nous donne l'assurance que notre ultime demeure sera avec lui dans le ciel. Christ nous dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » Et si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. « En effet, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Donc, le fait que Jésus soit monté au ciel, son ascension nous indique que Christ a atteint le but qu'il s'était fixé et que désormais nous avons l'assurance que nous aussi, un jour, nous y monterons aussi. Ainsi, frères et sœurs, il nous est demandé d'attendre en silence, d'attendre avec espérance, d'attendre dans la foi le retour de notre Seigneur Jésus. Et c'est vraiment une assurance, c'est vraiment quelque chose que Dieu, nous l'avons fêté lors du 10 mai, lors du jeudi de l'Ascension. Donc Jésus-Christ est monté au ciel et que nous avons cette assurance qu'un jour, il reviendra parmi nous, il reviendra pour nous prendre et ensuite nous serons avec lui pour toujours. Non seulement Jésus est-il monté au ciel, mais il a aussi été élevé à la position d'honneur, de gloire, de puissance. Au verset 33, Pierre nous dit que, de cette position élevée, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Donc là, c'est notre deuxième point. Pierre ramène ses auditeurs au phénomène de la Pentecôte et leur dit que ce qu'ils viennent de voir, ce qui s'est manifesté, découle de la promesse que Dieu avait faite d'envoyer l'Esprit Saint. Et maintenant que Christ, ressuscité, glorifié et élevé à la droite de son Père, Dieu a accompli cette promesse. L'Esprit Saint console les disciples face au regret qu'ils pouvaient avoir à cause de l'absence physique de Jésus. En effet, Christ lui-même avait dit qu'il ne les laisserait pas orphelins, mais qu'il reviendrait auprès d'eux d'une façon invisible, mais encore plus désirable, parce que alors, les disciples, les chrétiens, sauraient avec certitude que la puissance a été donnée à Jésus et que l'autorité que Christ exerce sur le monde suffit non seulement pour les chrétiens à vivre bien et heureux, mais vraiment à aussi donner leur vie pour Christ. Ainsi, nous avons toujours Jésus-Christ présent avec nous par la présence de son Esprit-Saint. Par sa grâce invisible et infinie, Christ a accompli ce qu'il disait aux disciples en disant « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et désormais, l'Église constituée de véritables croyants se retrouve fortifiée, encouragée sur le chemin de la foi. Quel réconfort en effet pour nous de savoir que Jésus, par son Esprit, nous soutient tous les jours, nous soutient dans notre vie quotidienne. Et c'est là aussi un encouragement dans les moments de doute, de souffrance, de difficulté, de savoir que, en effet, nous ne sommes pas orphelins de notre lutte ici-bas, mais nous avons cette puissance qu'est l'Esprit-Saint en tant que soutien. Il est donc important aussi que nous menions une vie dirigée par l'Esprit-Saint, une vie dans l'Esprit-Saint, c'est-à-dire une vie d'amour, de paix, de puissance, de vérité, de sainteté et de justice. Vivre par l'esprit que Christ a répandu, c'est vivre une atmosphère dans la présence de notre Seigneur. C'est vivre dans une atmosphère où la présence de Dieu est manifestée. Soyons donc assurés que Jésus-Christ est présent parmi nous. Jésus-Christ est présent d'une manière invisible, même si étant monté là-haut, pour nous préparer une place, il est présent parmi nous. Et que nous puissions aussi, nous, tous les jours, laisser cet esprit qui a été répandu, travailler, agir en nous. L'apôtre Pierre continue, et au verset 34, il va citer un psaume de David. En effet, Pierre va dire ceci, que « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc cette image, la session à la droite, est empruntée au vocabulaire des rois, dont les lieutenants avaient la charge de gouverner. Ainsi Jésus-Christ, par qui le Père est exalté et par la main duquel Dieu exerce sa seigneurie, est décrit comme étant assis à la droite du Père. Christ siège à la droite de Dieu. Et pareil, l'ascension de Jésus-Christ à la droite du Père est aussi l'accomplissement d'une promesse de l'Ancien Testament. En effet, le psaume de David que nous venons de lire a trouvé accomplissement à ce moment-là. Quand Christ est monté au ciel, cette promesse a reçu l'accomplissement. Et le fait que Christ ait été accueilli dans la présence de Dieu et se soit assis à la droite du Père est aussi un signe de l'achèvement de son œuvre rédemptrice. Tout comme nous aussi nous pouvons nous asseoir après avoir accompli une tâche importante, de même, Jésus s'est assis à la droite de Dieu, démontrant ainsi que son œuvre rédemptrice, son œuvre de salut était achevée. Nous l'avons vu que le premier acte du Seigneur glorifié a été l'envoi de son Esprit Saint. Et la mission de l'Esprit est aussi étroitement associée à celle des disciples. Justement, c'est l'Esprit Saint qui va rendre la mission des disciples réalisable et fructueuse. Donc, c'est l'œuvre du salut. Comme l'Esprit est son Esprit, Jésus-Christ, absent quant à la chair, est présent avec les siens, est présent avec nous de manière intime et efficace. Et cette communication de l'Esprit Saint revêt pour notre vie spirituelle une grande importance. Donc, en quelque sorte, en fait, c'est une activité céleste que Jésus déploie en se rendant spirituellement par l'Esprit disponible, présent pour les disciples à la fois individuellement, mais aussi collectivement. En plus de l'achèvement de l'œuvre rédemptrice de Christ, le fait que Jésus siège à la droite de son Père est une indication que Christ a reçu toute autorité sur l'univers. C'est un règne suprême à la fois sur l'Église et le monde, mais aussi un règne conquérant. En effet, Dieu a mis sous les pieds du Christ les puissances vaincues. Et ailleurs dans l'Écriture, Paul nous dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Pour nous, la Bible nous apprend, nous dit que déjà maintenant, déjà dans le temps présent, Dieu nous fait siéger avec Christ dans le monde céleste. Et en quoi cette méditation, la méditation de cette réalité, est-elle pour nous une source d'encouragement pour notre vie de prière et aussi pour notre encouragement dans le combat spirituel? Eh bien, mes frères et sœurs, notre foi reçoit divers bienfaits de tout cela. Nous comprenons en effet que, par son ascension au ciel, Christ nous en ouvre l'accès. Bien plus, c'est pour notre plus grand bien qu'il réside auprès du Père, où il agit continuellement comme notre avocat et comme celui qui intercède pour nous. Et Jésus nous y prépare sa grâce, et déjà, grâce à l'intercession de Jésus, c'est que Dieu nous prépare sa grâce et nous bénéficions déjà de sa clémence, car Dieu ne nous épouvante pas, ne nous punit pas comme il devrait le faire pour les pécheurs. En raison de cette union avec Christ, dans son ascension, nous sommes aussi chrétiens, bien sûr, étant sur terre dans une moindre mesure, en mesure de partager son autorité sur l'univers. Et cela, c'est assez important, c'est que déjà dans cette vie ici-bas, nous partageons dans une moindre mesure l'autorité de Jésus-Christ dans le monde. Et nous la partagerons encore bien davantage, bien plus entièrement, dans la vie à venir lorsque nous serons avec lui. Et Jésus-Christ promet aussi à celui qui vaincra, je le ferai siéger avec moi sur mon trône après avoir remporté la victoire. Voilà de merveilleuses promesses relatives à notre participation future à la session du Christ à la droite de Dieu. Voilà de merveilleuses promesses qui découlent de l'ascension de Jésus pour nous. Et la conséquence, justement, de l'ascension, c'est que nous sommes appelés à mener une vie de foi. C'est que nous sommes appelés à croire en la présence glorieuse de Jésus par l'Esprit Saint. Et c'est aussi pourquoi nous pouvons l'adorer, nous pouvons nous réjouir en esprit et en vérité comme les disciples l'ont fait. Et les disciples ont adoré Jésus, ils ont adoré le Christ, qui a été élevé, et ils se sont réjouis de cela. Ne regardons pas aux choses visibles, mais vraiment aux choses invisibles. Et ayons cette assurance que Christ est parti auprès du Père pour nous préparer une place. C'est aussi une assurance qu'un jour, nous serons auprès de lui. Et que dans l'attente de ce retour, Christ ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé son Esprit Saint qui est sa présence parmi nous, en nous, et aussi le fait que Christ nous délègue en quelque sorte une certaine autorité par son Esprit Saint. Et tout cela nous est raconté par sa parole. Et justement, c'est que nous avons la parole de Jésus-Christ et son Esprit Saint. Et je pense que cela devrait nous suffire. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager ce matin. C'était vraiment que, à travers cet événement qui est l'ascension de Jésus, que d'une part, Christ est monté au ciel, allant nous préparer une place, et que nous avons cette assurance que un jour, il va revenir pour nous chercher, et nous serons auprès de lui, et que dans l'attente de ce retour, nous avons l'Esprit Saint, cette puissance qui nous dirige, qui nous guide, et que nous devons aussi laisser travailler en nous, et que Dieu, Jésus siégeant déjà à la droite du Père, nous sommes associés à son œuvre. Et c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Je ne sais pas trop comment conclure à chaque fois. Et je vous invite à entonner un cantique, mais je n'ai pas le numéro. Je pense qu'on va chanter a cappella. C'est le 149. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. À toi la gloire. Et puis ce chant, c'est aussi, ça exprime notre reconnaissance et le fait qu'un jour, nous verrons Jésus et que nous serons avec lui. Si nous marchons jusqu'au bout et par la foi malgré tout, nous savons qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Peut-être nous pouvons nous lever pour chanter.
Je sais qu'un jour, mais je verrai Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi.
Je laisse la place à Martin pour la suite du culte.